Bien, bah bonjour à toutes et tous. Donc on va reprendre effectivement notre étude des rois. On arrive à la fin et c'est pas plus mal parce que on est sur des histoires qui sont quand même assez lourdes, assez parfois sinistres. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à en cumuler quelques-unes. Donc je suis pas mécontent d'arriver au terme de ce livre qui est passionnant mais qui est pas forcément facile. Si jamais du coup vous n'avez pas suivi le début de notre étude, je vous propose donc de faire un tout petit point sur cette fin qui s'annonce, la fin du deuxième livre des rois. Alors, dans les événements importants qu'on a évoqués, il y a d'abord la chute de Samarie, donc dans le royaume du Nord. On est au chapitre 17, on était au chapitre 17 et on avait vu comment le royaume d'Israël, alors divisé dans sa partie nord, s'était terminé à cause de l'invasion des Assyriens, mais surtout à cause du péché des rois d'Israël, des rois du Nord, qui donc a précipité la fin de cette portion du royaume. Et donc le point de vue se resserre et l'étau aussi se resserre sur Juda au sud, donc avec le royaume qui entoure Jérusalem et les rois de Juda. Et la dernière fois, donc il y a quelques semaines, Thibaut avait évoqué le règne d'Ézéchias, avait étudié le règne d'Ézéchias, à la fois les réformes très positives qu'Ézéchias avait pu conduire, et puis le miracle central de sa vie, de son existence, puisque ses jours avaient été prolongés par Dieu de 15 années. Et donc ce miracle avait eu toute une série de conséquences et avait donné une fin de règne un peu plus ambiguë, un peu plus ambivalente, et une première annonce de jugement pour Juda. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder sur le très long règne de Manassé. Alors, je dis le très long règne parce que c'est le règne le plus long, en fait, des rois de Juda. C'est un peu étonnant quand on regarde la portion de l'écriture qui lui est consacrée, mais il a duré 55 ans. Donc en fait, c'est le roi qui a régné le plus longtemps à Juda, et qui s'est pas fait remarquer par sa fidélité, bien au contraire. C'est un règne décisif, puisque Manassé est jugé par la Bible même et par le livre des Rois en particulier comme le responsable, le grand responsable de la chute, cette fois-ci, du royaume du Sud, du royaume de Juda, et la grande déportation qui est le point de mire de tout ça, hein, puisque, comme vous pouvez le voir sur la frise, tout ça se termine au VIe siècle avec la grande déportation vers Babylone. Alors, c'est au chapitre 24, il y a un verset très clair qui explique, je vous le lis, hein, c'est à cause des péchés de Manassé, de tout ce qu'il avait fait, que l'Éternel a envoyé des troupes contre Juda pour le détruire. Donc, le règne de Manassé, il est intéressant parce qu'il voit se concentrer, en fait, tous les grands motifs structurants du livre des rois qu'on a pu étudier. Donc, par exemple, la défaillance royale, l'impuissance des rois à garder un lien, merci, avec Dieu. Et puis l'impuissance des prophètes aussi a changé le cœur à la fois des rois et du peuple. Donc c'est le point de convergence et ça se termine mal, malheureusement, comme on va le voir à la fois cette fois-ci, mais aussi la fois suivante avec le roi Josias, qui a un règne plus positif, mais qui n'arrive pas non plus à empêcher l'avènement du jugement de Dieu, puisque la faute de Manassé a été particulièrement grave. Alors je vous propose de lire deux passages qu'on a rapidement, enfin qu'on a vous invitez à découvrir hier si vous ne les connaissez pas. Donc d'abord au chapitre 21 du livre des rois, pardon, du deuxième livre des rois. Et je vais lire donc à partir du verset premier, et je vais m'arrêter juste avant le règne d'Amon. Le règne d'Amon n'est pas forcément anecdotique, mais est dans la même veine, donc c'est pas nécessaire forcément de s'attarder dessus ce matin. Je me concentre sur Manassé. Donc Manassé, chapitre 21 du deuxième livre des rois, premier verset. Manassé était âgé de 12 ans quand il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephstiba. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il dressa des autels à Baal. Il fit une image d'Achéra, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. L'armée des cieux, c'est probablement une image pour les étoiles. Il bâtit même des autels dans la maison de l'Éternel, dont l'Éternel avait dit, c'est à Jérusalem que je mettrai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il pratiquait la magie et les augures. Il établit des nécromanciens et des devins. Il fit de plus en plus ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Et l'image taillée d'Achéra, donc c'est une déesse du Levant, l'image taillée d'Achéra, je répète, qu'il avait faite, il l'a mise dans la maison dont l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisi d'entre toutes les tribus d'Israël que je mettrai mon nom à perpétuité. et je ne ferai plus errer les Israélites hors de cette terre que j'ai donnée à leur père, pourvu seulement qu'ils prennent garde à exécuter tout ce que je leur ai commandé, toute la loi que Moïse, mon serviteur, leur a commandé d'observer. Mais ils n'obéirent point, et Manassé les égara, et leur fit faire pis que les nations que Dieu avait exterminées devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla par ses serviteurs, les prophètes, et dit, « Parce que Manassé, roi de Juda, a commis de telles abominations, faisant pis que tout ce qu'ont fait les Amoréens avant lui, et qu'il a fait aussi pécher Juda par ses idoles, à cause de cela, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda un mal tel que quiconque en entendra parler, les deux oreilles lui en tinteront. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie, le niveau de la maison d'Akkad, et j'écurerai Jérusalem comme un plat qu'on écure et qu'on renverse sur son fond après l'avoir écuré. Et j'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils seront en pillage et en proie à tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mauvais devant moi, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. » Manassé répandit aussi le sang innocent en fort grande abondance, jusqu'à en remplir Jérusalem depuis un bout jusqu'à l'autre, outre le péché où il entraîna Juda en faisant ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé et tout ce qu'il fit, et les péchés qu'il commit, cela n'est-il pas écrit au livre des chroniques, des rois de Juda? Et Manassé s'endormit avec ses pères, et il fut enseveli au jardin de sa maison, au jardin d'Uzza, et Amon son fils régna à sa place. Donc il est enterré en dehors des murs de Jérusalem, ce qui est aussi quelque chose d'inédit pour les rois de cette époque. Et donc s'ensuit le règne d'Amon sur lequel, enfin que vous pourrez lire, mais c'est sensiblement la même chose en plus petit et en plus mauvais. Donc vous avez, ensuite on va faire un petit saut sur le livre suivant, donc on va aller cette fois-ci au deuxième livre des chroniques pour avoir une lumière différente après ce portrait très négatif de Manassé. Donc deuxième livre des chroniques, chapitre 33, et je vais lire à partir cette fois-ci du verset 10, puisque le début du chapitre 33 est sensiblement le même récit que ce qu'on lit dans les rois. Donc, reprise du récit de Manassé, verset 10, chapitre 33, deuxième livre des chroniques. Et l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y voulurent point entendre. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi des Assyriens, qui mirent Manassé dans les fers. Ils le lièrent d'une double chaîne d'airain et l'emmenèrent à Babylone. Et lorsqu'il fut dans l'angoisse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia fort devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses supplications, et Dieu fut fléchi par sa prière et exauça sa supplication, et il le fit retourner à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après cela, il bâtit une muraille extérieure à la cité de David, à l'occident, vers Guillon, dans la vallée jusqu'à l'entrée de la porte des poissons. Il en entoura Ophel et lui donna une grande hauteur. Il établit aussi des chefs d'armée dans toutes les villes fortes de Juda. Il ôta de la maison de l'Éternel les dieux des étrangers et l'idole et tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de Jérusalem, de l'Éternel, pardon, et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Puis il rebâtit l'Éternel, l'autel de l'Éternel, et y offrit des sacrifices de prospérité et de louange, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Toutefois, le peuple sacrifia encore dans les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu, les paroles des voyants qui lui parlaient au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière, comment Dieu fut fléchi, tout son péché, son infidélité, les places dans lesquelles il a bâti des hauts lieux et dressa des emblèmes d'Achéra et des images taillées avant qu'il s'humilia, voilà cela est écrit dans les paroles des voyants. Puis Manassé s'endormit avec ses pères et on l'ensevelit dans sa maison et Amon, son fils, régna à sa place. Fin de notre lecture. Et donc, le mystère qui m'a occupé quand même en découvrant tout ça, c'est pourquoi le portrait est si négatif dans le livre des rois, pas une seule zone de lumière, alors qu'on sait par le livre des chroniques que la deuxième partie de la vie de Manassé s'est plutôt bien passée. Rédemption personnelle, retour, retrouvaille avec Dieu, et puis une fin de règne marquée par des chantiers qui semblent signifier une période plutôt positive pour le royaume d'Israël. Donc voilà ce que je vais explorer ce matin en procédant en trois parties. D'abord, on va étudier ce que le texte des rois nous dit, puisque c'était l'objectif à la base d'étudier les rois et pas les chroniques. Donc on va prendre le temps, même si ça va être un peu douloureux, de reparler de tout ce qui va pas dans le règne de Manassé et faire quelques commentaires sur son apostasie, sur son éloignement d'avec Dieu et d'avec la loi. Dans un deuxième temps, on va aller voir ce que le texte ne nous dit pas, et on va prendre le temps de dresser des explications, parce que c'est quand même très curieux, de cette omission, de ce texte qui est partiel et qui ne parle pas de la rédemption et du retour en grâce de Manassé. Et dans un troisième temps, de façon un peu plus rapide, on essaiera d'explorer ce que cette histoire, donc cette fois-ci en prenant les deux textes, à la fois les rois et les chroniques, nous dit de Dieu, nous apprend de Dieu. Voilà pour le programme. Alors, concernant Manassé et son apostasie, c'est le reniement de la foi de ses pères qui est manifeste et très clair dans le texte. Donc, ce qui ressort, c'est effectivement un portrait très négatif. C'est vraiment un texte qui nous présente dans les rois la part sombre de la vie de Manassé, avec ce verset remarquable hein, qui synthétise tout, au verset 2 du chapitre 21. « Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » Donc, Manassé, par sa politique, par ses choix, a trahi l'alliance que Dieu avait fixée avec son peuple. Je ne prends pas le temps ici, puisqu'on a déjà fait de nombreuses fois, d'expliquer pourquoi c'est un problème, l'idolâtrie, d'accord ? Pourquoi ça offense Dieu. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, notamment en lien avec le Deutéronome. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir le caractère un peu inédit de la déviation, de la déviance de Manassé. C'est-à-dire que Salomon a connu l'idolâtrie, on en a déjà parlé. Achab aussi, il est évoqué d'ailleurs directement dans le texte, ce qui n'est pas forcément très flatteur au verset 3, il fit une image d'Achab comme avait fait Achab. Donc il y a déjà eu des précédents, à la fois au nord et au sud, de rois qui ont été idolâtres. Jéroboam avec Léolieu par exemple. Ce qui est inédit, c'est l'intensité. C'est-à-dire que le caractère, j'allais dire presque complètement hors de contrôle de cette idolâtrie, de ce retour du polythéisme, est spectaculaire. Alors, ça passe déjà par la prolifération de l'idolâtrie. Il y a plein d'exemples dans le texte de formes différentes d'idolâtrie. Et surtout, géographiquement, on voit que ça touche à la fois la ville-centre, donc le temple qui est profané avec l'emblème qui est placé au milieu du temple, mais aussi l'ensemble des provinces où les hauts lieux sont reconstruits. On a l'impression que on est cette fois-ci dans une politique religieuse complètement décentralisée, où tous les cadres sont explosés et où tous les cultes sont possibles. Tout le royaume est concerné, de la ville jusqu'aux campagnes. Et ce développement de l'idolâtrie incontrôlée s'accompagne de pratiques toutes plus abominables les unes que les autres, qui montrent des formes de culte et des pratiques à mi-chemin entre la religion et la superstition qui sont très très éloignées de ce que Dieu voulait pour son peuple. Et là-dessus, le texte est intéressant puisque ce caractère extrême, ce caractère radical, il est dans le langage même du texte qui abuse volontiers des superlatifs. Il a fait de plus en plus ce qui est mauvais, il leur fit faire pire que les nations. Toutes ces expressions-là montrent qu'on est dans un processus où on a une logique d'accumulation, comme ça, du mal et de ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et ça s'accompagne d'une violence aussi, qui est assez inédite, avec ce verset 16, qui vient clore notre passage. Hein. Manassé répandit aussi le sang innocent en fort grande abondance, jusqu'à remplir Jérusalem de putain bout jusqu'à l'autre. Chouraki traduit de Jérusalem de bouche en bouche, on a l'impression que ça dégorge de sang de partout. C'est probablement ici une référence à une répression que Manassé aurait menée contre les partisans d'un retour à l'ordre traditionnel, en particulier les prophètes. Alors là, pour le coup, on sort de ce que la Bible nous dit. La tradition dit qu'Ésaïe en particulier, pas forcément les dates en tête de l'extension complète, de la durée complète de sa vie. Il semblerait que Ésaïe ait été tué sous les ordres de Manassé, à la fin de sa vie, scié en deux, dans le cadre justement d'une réaction prophétique contre les abus de pouvoir et contre ce développement de l'idolâtrie. Alors ce qui est nouveau aussi, c'est que Manassé s'implique personnellement dans le mal. Alors les rois précédents ont pu le faire, mais il le fait avec une intensité là encore assez inédite. Et l'exemple le plus simple, le plus clair, c'est le sacrifice de son fils. Donc au verset 6, hein, il fit passer son fils par le feu, donc sacrifice d'enfant dans un cadre d'un culte idolâtre. Et il y a aussi une expression qui est particulièrement intéressante, que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est à la fin du verset 6, juste après avoir évoqué toutes les pratiques magiques abominables devant Dieu, il est précisé, il, donc Manassé, fit de plus en plus ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour l'irriter, en tout cas c'est comme ça dans ma traduction, pour l'irriter, comme s'il y avait une intention volontaire, une rébellion volontaire de Manassé contre Dieu. Alors, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas derrière donc cette, euh, ce phénomène historique, donc cette corruption du royaume, d'autres intérêts que des intérêts uniquement, j'allais dire, spirituels, en tout cas d'autres phénomènes à l'œuvre. Et certains historiens avancent effectivement l'idée que le développement, le retour au polythéisme a servi des intérêts aussi politiques et économiques. Alors, ça pose une question aussi, c'est pourquoi en fait ? Pourquoi Manassé se caractérise par une telle intensité dans le mal ? Est-ce que c'est son jeune âge ? C'est une explication qu'on pourrait se donner. Il arrive au pouvoir à 12 ans, c'est jeune. Et puis on pense au verset de l'Ecclésiaste, « Un malheur à la ville dont le prince est un enfant ». Sauf que pas de chance, Josias, son règne se passe plutôt bien. Et Josias arrive au pouvoir à 8 ans. Donc c'est un argument qui est pas du tout satisfaisant. Par contre, ce qui est plus satisfaisant, c'est l'idée qu'il a mené une politique volontaire aussi. Il a utilisé le polythéisme, l'idolâtrie, pour servir des intérêts politiques. Alors pourquoi, concernant l'extérieur, dans son rapport avec l'Empire assyrien, l'archéologie nous montre que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le royaume de Juda à cette époque, déjà un peu sous Ézéchias, la fin de son règne, mais surtout sous Manassé, est en fait assez proche de l'Empire assyrien. C'est un royaume allié, vassal, mais allié. Et il y a notamment dans les annales assyriennes, à la fois de Sanchérib et puis de ses fils Esardon et Sardanapal, des mentions directes à Manassé comme quelqu'un sur qui on peut compter, notamment pour des grands chantiers à Ninive et aussi pour une campagne contre l'Égypte où le royaume de Juda a participé à justement défendre les intérêts des Assyriens contre le pharaon égyptien. Donc, dans l'hypothèse que le royaume de Juda essaye de montrer à l'empire dominant voisin bien menaçant qu'il est son allié, qu'il est proche, on peut imaginer que ça peut avoir un intérêt de donner des gages en laissant des cultes de cet empire et des cultes donc polythéistes se développer dans le royaume. C'est une façon de montrer un rapprochement culturel et religieux avec son voisin. Autre hypothèse, cette fois-ci plutôt vers l'intérieur, donc dans le cadre d'une politique intérieure, certains historiens avancent l'idée que contrairement à Ézéchias, Manassé a mené une politique de décentralisation. Non pas que ce soit mal en soi, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais là où Ézéchias avait centralisé le culte à Jérusalem, Manassé a décentralisé une partie de sa gestion, notamment parce qu'il s'est appuyé, il voulait développer une politique agricole performante. On a retrouvé des traces notamment de production d'huile d'olive, d'un commerce florissant. C'est pas un mauvais royaume. Le royaume de Juda à cette époque, contrairement à l'image qui nous sort du texte, c'est un royaume plutôt prospère, qui fonctionne plutôt bien. Donc, il y a des stratégies politiques, sociales et économiques à l'œuvre, où la religion peut avoir un impact. Dans laquelle, pardon, la religion peut avoir un impact. Parce que, quand vous décentralisez le culte, ça veut dire que vous renforcez les provinces, vous mettez des lieux de vie et religieux dans les provinces du royaume, et du coup vous avez aussi des élites qui sont renforcées, vous avez toute une vie qui s'anime autour de ces lieux de fêtes, de pèlerinage et autres. Donc, il est possible que parmi les raisons pour lesquelles Manassé est favorisé le développement d'idolâtrie du polythéisme, ça peut être aussi pour servir des intérêts politiques et économiques. Mais c'est pas suffisant, c'est-à-dire que c'est intéressant, mais ça n'enlève pas et ça ne doit pas disculper l'engagement personnel de Manassé dans tout ça, sa responsabilité personnelle, la façon dont il s'est impliqué justement dans tout le mal qui a été commis. Hein, toutes les formules du texte le disent, hein, il bâtit, il fit, il commit. Il s'est impliqué personnellement au-delà des manœuvres politiques qui ont pu instrumentaliser la religion dans un intérêt particulier. Alors, elle est d'autant plus frappante, je trouve, cette dimension personnelle, qu'on a l'impression que Manassé, dans son règne, fait exactement l'inverse de tout ce qu'Ézéchias avait fait. Que son règne est un peu le miroir inversé du règne de son père. Alors, j'en veux pour preuve, donc les éléments que j'ai fixés ici, donc à gauche Ézéchias, à droite Manassé. Ézéchias, détruit les hauts lieux, ils sont reconstruits par qui ? Par Manassé. Ézéchias centralise le culte, au contraire, ils vont être décentralisés dans le cadre d'une politique religieuse polythéiste par Manassé. Ézéchias démontre une bonne partie de sa vie une forme de fidélité, là où Manassé se caractérise plutôt par une infidélité crasse. Ézéchias résiste aux Assyriens, ce que Thibault avait étudié la dernière fois, même si c'est un peu ambigu sur la fin de sa vie, alors qu'inversement, non seulement les Assyriens soumettent Manassé, mais on a parfois l'impression qu'il a une politique active avec eux, si ce n'est l'incident qui est raconté dans Chronique, puisqu'il est emmené à, à Babylone, oui, à Babylone, c'est ça, suite à un incident qui n'est pas mentionné, dont on n'a aucune trace historiquement. Ça, c'est un mystère. On peut imaginer qu'en 55 ans de règne, à un moment donné, il s'est fâché un petit peu avec les Assyriens. Ça n'a pas empêché derrière de continuer, comme en témoigne l'archéologie et l'histoire, les sources historiques, avec son voisin menaçant. Donc, quand même, deux faces. Hein, là, c'est Ézéchias, et ça, c'est Manassé, au passage, pour préciser. Alors, on a l'impression d'une réaction générationnelle, un petit peu. Hein, il veut pas être le fils à papa, il veut faire l'inverse. Et il y a quelque chose qui semble se jouer sur le rapport entre Manassé et son père. Alors, le problème, c'est que dans ces cas-là, on a beaucoup de spéculations, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment, on ne connaît pas leur relation, ce qui s'est passé. On peut penser que c'est d'abord la faute du fils, hein, il a probablement fait des mauvais choix, ça se voit quand même. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques indices qui laissent penser que peut-être c'était pas facile d'être le fils d'Ézéchias, d'être le fils du père qui n'a pas voulu laisser sa place, le père qui n'a pas voulu mourir, le père qui est auréolé de toute une série de miracles, puisque par deux fois, les lois de la nature pour la maladie et pour les as se sont pliées à la volonté de Dieu et à sa demande. Donc, il y a quelque chose quand même peut-être dans la place écrasante qu'Ézéchias a pu jouer sur son fils et la difficulté qu'il a eue peut-être à céder la place. Alors, quand on regarde les âges, hein, Manassé, il arrive au pouvoir à 12 ans. Son père est mort, donc il avait 12 ans, ce qui veut dire qu'il est né après le miracle d'Ézéchias, puisque le miracle d'Ézéchias, Dieu avait allongé sa vie de 15 ans. Donc c'est un enfant qui n'aurait pas dû exister s'il n'y avait pas eu ce miracle, quelque part, si on tire un peu les fils psychanalytiques qui sont derrière. J'irai pas jusque-là, mais ce qui m'intéresse, c'est que à aucun moment, Ézéchias, quand il demande sa grâce par rapport à sa maladie, il évoque le fait qu'il n'a pas d'héritier. À aucun moment. Il dit « je vais mourir, je ne vais pas mourir ». Et il y a un miracle. Quand à la fin de sa vie, Ésaïe vient le voir et lui dit « attention, tes fils, ils vont partir en Babylonie, ils vont devenir eunuques, ils vont plus avoir la transmission de la génération, ils vont plus pouvoir, ils vont être… » Il dit « ah, ta parole est bonne, Ésaïe, ta parole est bonne, moi, du moment que je suis tranquille, ça va, c'est la fin du chapitre précédent ». Alors, j'irai pas forcément plus loin là-dessus, mais il y a quand même quelque chose sur la question de la succession. Comment on fait pour succéder à un père qui veut pas mourir? Comment on fait pour succéder, pour trouver sa place dans une cour qui est persuadée que ce miraculé, bah, peut-être qu'il va pas mourir après tout. Il y a une fois, il y a eu un précédent, pourquoi pas deux? Donc, il y a quelque chose aussi sur le narcissisme d'Ézéchias qu'il faudrait explorer, mais je me garderais bien de tirer des conclusions trop hâtives. Ce qui me semblait intéressant, sans aller plus loin, c'est l'idée que Manassé, dans sa psychologie, à un moment donné, peut-être, a cette envie de tuer ce père qui ne veut pas mourir. Je précise tout de suite que ça, ce sont quand même largement des spéculations. On manque d'éléments pour les étayer. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Ça n'excuse en rien le comportement de Manassé. Mais ça peut expliquer peut-être certaines choses. Alors, ce qui est étonnant dans cette affaire très sombre, c'est quand même l'omission de toute la deuxième partie du règne de Manassé. Donc cette fois-ci, il y aura une slide par partie et trois sous-parties. J'ai pas eu le temps de faire plus. Donc, on a lu en lisant les chroniques que le point de vue des rois est beaucoup plus négatif que celui des chroniques. La repentance de Manassé n'est même pas mentionnée à la fin de la portion des rois où les chroniques sont mentionnées. Il est marqué tout le reste des péchés de Manassé. C'est dans les chroniques. À aucun moment il est question du salut de Manassé et de sa repentance. Et donc, il y a une absence là. Magistrale, complètement stupéfiante, qui mérite quand même quelques explications ou du moins des hypothèses. Alors, cette absence, elle a pu être interprétée négativement, être regardée avec méfiance, notamment par des historiens ou des théologiens libéraux, des partisans de ce qu'on appelait, parce qu'aujourd'hui ça a du plomb dans l'aile, l'école historico-critique au XIXe siècle. Donc, c'est bizarre, cette absence. Est-ce que ça voudrait pas dire que les auteurs des rois auraient volontairement noirci le portrait de Manassé, pour mieux, par exemple, valoriser son successeur Josias. Et là-dessus, une hypothèse qui a été avancée, c'est l'idée que les rois, en tout cas cette portion, ont été rédigés par des partisans du roi Josias. Et donc, pour mieux valoriser Josias, on dit que celui qui lui précède, c'est le pire des hommes. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence Néron. Alors, je ne vais pas défendre Néron, qui est un odieux persécuteur de chrétiens, mais toutes les traces qu'on a de Néron, en tout cas les sources écrites, ont été écrites par ses ennemis. Donc forcément, c'est rarement un portrait très flatteur. Si on demandait à votre, c'est-à-dire à le collègue qui vous supporte le moins de donner son point de vue sur chacun d'entre vous, il est probable que ce serait pas forcément très objectif. Alors, il y aurait une sorte de propagande royale, voilà, on défonce Manassé pour mieux valoriser Josias. Alors, le problème de cette interprétation, l'on pose plein, mais c'est qu'elle présuppose une instrumentalisation de la parole de Dieu, donc ici du livre des rois, à des fins de propagande royale, dans un intérêt partisan, alors que nous, comme chrétiens, nous savons que ce livre est inspiré de Dieu et qu'il ne sert non pas les intérêts d'un roi, mais les intérêts de Dieu. D'autant plus que Josias, malgré tous ses beaux efforts, on le verra la semaine prochaine, eh ben ça se termine pas avec un salut complet du peuple d'Israël. Alors, du coup, pour répondre à cette inquiétude hein, sur la vérité du texte, il y a un argument qui est quand même simple, c'est que le texte des rois assume complètement d'être sélectif. C'est pas un texte qui prétend être exhaustif. Au contraire. Dans le passage qu'on a lu, au verset 17, c'est bien marqué, hein, le reste des actions, tout ce qu'il fit, les péchés qu'il commit, cela n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Donc, le texte dans sa forme même assume le renvoi des lecteurs vers d'autres textes qui vont compléter le point de vue sur une même personne. Dans les chroniques, il n'y a pas d'incohérence, hein, le début du règne de Manassé est tout aussi désastreux. Donc il n'y a pas d'incohérence entre les deux, donc tout le monde ne peut pas soupçonner le livre des rois d'être trop négatif, puisque les chroniques disent la même chose et c'est pas les mêmes auteurs. Donc il y a une cohérence entre les deux textes, ça c'est très clair. Et dans les chroniques aussi, il y a des aspects qui ne sont pas mentionnés explicitement et qui sont renvoyés vers d'autres textes, notamment les détails sur la prière de Manassé. Il est question d'une prière de Manassé, elle n'est nulle part dans la parole. Elle était autrefois, à l'époque de la Septante, elle avait été conservée, il y avait un texte qui avait été conservé, qui était à la fin du livre des chroniques, puis qui a été finalement retiré et jugé apocryphe par toutes les églises chrétiennes, à la fois catholiques et protestantes. Ce texte, il est assez inoffensif, on peut le trouver en ligne, hein, c'est un texte apocryphe. Alors, pourquoi il a été retiré? Bah, parce que, au niveau de sa datation, il semblerait qu'il soit bien plus tardif. C'est un texte qui aurait plutôt rédigé au deuxième siècle après Jésus-Christ. Et puis l'autre problème, c'est qu'il y a une phrase, qui est complètement contradictoire avec tout ce que la Bible dit sur les pères de l'Église. Les grandes figures de l'Ancien Testament. Il y a une phrase dans la prière de Manassé, telle qu'elle a été retenue historiquement, où il est question d'Abraham, qui n'aurait jamais offensé Dieu. Alors on sait que dans le récit d'Abraham, il y a plein d'offenses qui ont été faites à Dieu. Donc il y a des choses qui sont un peu bancales, et du coup, la prière n'a pas été retenue dans le canon. Tout ça pour dire que ces livres-là ne sont pas censés être exhaustifs. Ils font des renvois à d'autres textes, parfois qu'on a conservés, parfois non, et c'est un argument qui est assez convaincant pour se dire, en fait, c'est normal qu'un auteur sélectionne parce que il a peut-être une intention qui va être différente de celle d'un autre livre. Et c'est là où on voit la complémentarité des textes bibliques, des livres bibliques, pardon. Et c'est sur ce point que j'aimerais insister maintenant, c'est que, en fait, les rois comme les chroniques ne veulent pas démontrer les mêmes choses, n'ont pas les mêmes objectifs parce qu'ils n'ont pas été produits dans les mêmes contextes et parce qu'ils n'ont pas les mêmes publics. Le livre des rois, il a été rédigé pendant l'exil, à un moment donné où le peuple d'Israël est, quelque part, sonné, assommé par la situation qu'il vit. Et donc, le livre des rois répond à une question, c'est comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce qui explique qu'on soit maintenant en exil? Et donc, le livre vient répondre à ce besoin en apportant à la fois des facteurs qui expliquent cette chute, qui expliquent cet exil, la défaillance des rois, l'impuissance des prophètes, l'infidélité du cœur, et puis il donne aussi un coupable, entre autres, parmi d'autres, mais notamment Manassé, puisque au chapitre 24, à la fin du livre des rois, il est bien marqué que la déportation est à cause du péché de Manassé. Donc il apporte une explication sur cette trajectoire désastreuse du peuple d'Israël. Il répond à ce besoin-là. Alors que le livre des chroniques, il a été rédigé bien plus tard. Il a été rédigé au moment du retour d'exil. Il a été rédigé notamment dans une période qui est beaucoup plus contemporaine de ce que vivent Esdras et Néhémie. Et là, vous comprenez que le récit d'une conversion, entre guillemets, en tout cas le récit d'un retour vers Dieu du roi Manassé, les retrouvailles quelque part entre Manassé et Dieu, elles font écho aux retrouvailles entre le peuple d'Israël et Jérusalem, bien sûr, et surtout entre le peuple d'Israël et Dieu. Donc ça a beaucoup plus de sens de parler de la conversion de Manassé dans les chroniques que dans les rois. Et l'intérêt, pour nous qui avons les deux, c'est de lire les deux. Parce que certes, c'est pas écrit dans les rois, mais c'est écrit dans les chroniques. Donc, complémentarité des livres bibliques, ce qui ne veut pas dire qu'on va continuer, après le livre des rois, par faire l'étude des chroniques. Je tiens quand même à le préciser. Enfin, ça peut être intéressant, mais ça risque d'être un peu long. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que ce récit, donc à la fois sombre et lumineux, cette histoire de Manassé nous apprend de Dieu? J'aimerais quand même terminer sur des choses un peu plus positives, même si le reste est aussi porteur d'enseignement. Est-ce qu'on peut avoir le sentiment que Dieu est un peu absent de l'histoire de Manassé, hein, tel déchaînement de violence, l'idolâtrie partout, rien ne va? Et pourtant, dans le texte qu'on a lu, d'abord dans celui des rois, on voit que Dieu apparaît à de très nombreuses reprises. Même la forme du texte est parfois un peu, je dirais pas confuse, mais on passe du récit, la narration de tout ce qui se passe mal dans la vie de Manassé, et puis il y a des interventions des rois, de Dieu, qui arrivent, des rappels de ses promesses, des références à l'Ancien Testament, des références aux promesses qui ont été faites à David, à Salomon. Donc toute une série de versets, je pourrais les citer, mais vous les avez dans les yeux, hein, verset 2, verset 4, versets 7 et 8, où on voit la mémoire de la fidélité de Dieu, la mémoire de la constance de Dieu. Et cette mémoire-là, elle est partout. Dieu, dans ce déferlement de mal, il avertit, il rappelle ce qu'il a fait, il patiente jusqu'à son comble, jusqu'à ce que le mal atteigne à son comble, et là, il intervient. Et l'intervention de Dieu, c'est le deuxième aspect quand même qui ressort du texte. Il intervient d'abord par la parole des prophètes, au verset 10, alors l'Éternel parla par ses serviteurs les prophètes, et il y a peut-être eu ici, il y a des débats encore historiques, mais aussi des soulèvements, en tout cas une répression qui s'est abattue contre ceux qui ont pu montrer leur désaccord. Il intervient en donnant une explication, à nouveau, comme au chapitre 17, sur les raisons pour lesquelles le jugement va s'abattre. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans la forme du texte, c'est que la parole de Dieu, elle épouse le langage hyperbolique du mal qu'on a vu se déployer depuis le début du règne de Manassé. Je vous redonne ce passage, hein, c'est quand même frappant. J'étendrai sur Jérusalem. Alors d'abord, il y a l'image des oreilles qui tintent, on connaît ça. On a l'impression que le mal est tellement assommant qu'il va falloir un jugement encore plus assommant. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie, le niveau de la maison d'Aca, donc cette image de presque de maçonnerie où il faut aller saper les fondations du mal et remettre les choses d'équerre parce que ça va trop loin. Et puis cette image de vaisselle, hein, d'épuration, on pourrait dire, j'écurerai Jérusalem comme un plat qu'on écure et qu'on renverse sur son fond après l'avoir écuré. Donc il y a bien aussi une hyperbole dans la réponse d'un Dieu horrifié par ce qu'il voit. Et le texte est parfaitement clair sur l'abomination que représente l'ensemble de l'œuvre de Manassé avant sa repentance. L'opération va être brutale, pour le dire de manière nette. Alors, quand on croise les deux extraits, à la fois les rois et les chroniques, on voit que l'intervention de Dieu, elle a deux aspects, c'est assez cohérent avec ce qu'on a exprimé dans le culte ce matin. Et je trouve ça aussi assez touchant. On a l'impression qu'il y a toujours deux niveaux quand Dieu parle de purification, quand Dieu parle de ces opérations là de nettoyage de Jérusalem et d'évacuation du péché. Il y a d'abord une perspective de long terme, parce que ça fait écho justement au jugement qui va s'abattre sur Juda, une dimension collective. Tout ça annonce prophétiquement la fin du royaume de Juda. Juda va connaître le même destin que Samarie, et tout ça, c'est bien à cause du péché de Manassé et de tout ce que Manassé a orienté dans le peuple comme mauvaise pratique, a autorisé comme mauvaise pratique. Donc on est d'abord à une échelle prophétique, presque macro, on voit Dieu qui intervient en disant « bah on va nettoyer tout ça ». Mais quand on compare avec ce qui se passe dans les chroniques, on voit qu'en fait, il y a quelque chose qui se joue aussi au niveau individuel. Et c'est exactement ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire que derrière l'intervention globale de Dieu sur le jugement qui s'abat, il y a une intervention chirurgicale de Dieu sur le cœur de Manassé, qui intervient au livre des chroniques en l'envoyant où ? En prison, avec ses amis, les Assyriens. Alors, à titre personnel, ce passage me touche, hein, puisque on voit que la prison peut changer les cœurs, c'est intéressant. Certains deviennent écrivains, d'autres se repentent. Et donc, on a quelque chose d'assez fort quand même avec ce choc carcéral que vit Manassé. Le texte est très clair, il parle d'angoisse, d'anxiété, et on voit que ça se traduit, cette anxiété, par une prière de repentance. La fameuse prière de Manassé que j'évoquais tout à l'heure. Et je trouve ça très intéressant qu'on n'ait pas conservé cette prière. Alors c'est peut-être un artifice littéraire pour moi, mais je trouve ça quand même intéressant. Il y a quelque chose qui se passe dans l'intimité de Manassé qui prend conscience de l'ampleur de son péché, de sa faute, et qui revient vers Dieu dans le creux de son cœur, sans qu'on connaisse exactement ce qu'il a dit, même si le psaume 50 pourrait être un aperçu, d'après les théologiens, assez clair du type d'expression poétique utilisée pour la repentance. Donc, l'intervention de Dieu, c'est pas seulement le nettoyage à grandes eaux d'une Jérusalem souillée, le jugement qui s'abat, c'est surtout le nettoyage d'un cœur, d'une personne, la purification d'une personne à qui il ouvre les yeux. Et c'est intéressant à nouveau par rapport à d'autres épisodes des rois qu'on a pu étudier. Comme chez Naaman, on a quelque chose d'une extraordinaire modernité, d'une conversion au sens évangélique. Naaman, comme Manassé, exprime une repentance, c'est suivi d'une grâce, d'une restauration, toujours sans sacrifice alors qu'on est dans l'Ancien Testament, mais par la volonté souveraine d'un Dieu d'amour qui sait qu'il doit intervenir pas simplement par le jugement, mais aussi par la grâce, et la grâce d'un cœur en particulier. Donc, pour terminer, pour conclure, je dirais que l'histoire de Manassé, avec ses parts sombres et ses parts lumineuses, nous donne un exemple supplémentaire de la grâce toute-puissante de Dieu, de sa capacité à relever les individus, même le pire des hommes, peut avoir une issue proposée par Dieu si Dieu le juge utile, le juge bon, ou si cette personne se tourne vers lui. Donc, une confiance dans la capacité des gens à changer positivement, quelle que soit leur histoire. Mais quand on croise effectivement les rois et les chroniques, on se rend compte que tout ça n'annule pas la justice, le jugement, la gravité des péchés de Manassé, la gravité de ce que le peuple d'Israël a commis sera suivi, aura un terme. Et ce terme-là, il arrivera à la fin du livre des rois par la grande déportation, qui sera suivie certes d'une restauration du peuple avec le retour d'exil, mais qui n'en demeure pas moins réelle. Il y a même un verset un peu plus tard, donc au chapitre 24, quand il est question du péché de Manassé qui explique la déportation, il y a marqué très clairement « Dieu ne pardonnera pas certaines choses ». C'est marqué dans le texte. Donc, c'est une grâce qui s'accompagne d'une justice et l'un ne va pas sans l'autre. La rédemption de Manassé, quelque part, elle n'annule pas le jugement divin. Elle lui apporte une dimension supplémentaire qui annonce, et ce sera la conclusion de mon exposé, qui annonce en fait notre propre grâce. Elle annonce une grâce qui permet à des individus, c'est-à-dire nous tous, d'être épargnés d'un jugement collectif, d'un jugement qui va arriver à la fin des temps, d'échapper à la justice parce qu'un autre, plus grand que nous, qu'on a évoqué ce matin, qu'on a adoré ce matin, Jésus, est venu sur la croix pour mourir et pour se faire justice pour nous. Et ce n'est peut-être pas un hasard si la seule mention de Manassé dans le Nouveau Testament, elle est dans la généalogie de Jésus, puisqu'il fait partie effectivement de la lignée qui a conduit à l'arrivée de notre Sauveur. Je termine et je vous remercie de votre attention.